Lundi 22 août 2022, il vient d'être 17h à Niamey et partout au Niger. L'édition en français, c'est avec Rukayta Abdrahman. Les titres. La deuxième phase des travaux du barrage de Kandaji, qui consiste à changer le parcours du fleuve, est entamée aujourd'hui. C'est le président du conseil d'administration de l'agence du barrage de Kandaji qui l'a annoncé ce matin lors d'une visite sur place avec les journalistes. Levée du mot d'ordre de grève des transporteurs prévu aujourd'hui suite à la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et la coalition des syndicats du secteur des transports. Les détails à suivre dans un instant. En fin d'édition de notre rubrique Justice, nous parlerons du droit international humanitaire. C'est la partie magazine de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Les journalistes ont effectué ce matin une visite sur le site du barrage de Kandaji dans la région de Tillabéri. Cette visite terrain organisée par les responsables de l'agence du barrage vise à informer l'opinion nationale et internationale sur l'état d'avancement des travaux de l'infrastructure. Le président du conseil d'administration de l'agence, professeur Issoufou Katembe, a annoncé le début de la deuxième phase des travaux aujourd'hui. Des propos recueillis par notre envoyé spécial Mokhtar Hamadou.
La cérémonie de ce matin, elle est très importante parce qu'il s'agit de la dérivation du fleuve ou si vous voulez une déviation. C'est changer le parcours du fleuve. Au lieu que le fleuve continue à aller du côté est, maintenant on va le faire revenir du côté ouest. Et la partie est, comme il n'y aura plus d'eau, elle sera asséchée. Et c'est là-bas que nous allons réaliser la centrale électrique. Voilà pourquoi c'est important. Parce que si on n'inaugurait pas cette dérivation aujourd'hui ou dans quelques jours, c'est terminé et le programme, il aura perdu encore un an. Parce que dans 2 mois, les crues vont commencer. Et à partir du moment où les crues commencent, vous ne pouvez plus faire la dérivation. On leur a donné le délai jusqu'au 31 août. Si au-delà du 31 août, ils ne finissaient pas ça, c'est terminé. Considérez que le barrage, ce n'est pas en 2025, mais ce sera en 2026, parce qu'on allait perdre un an. Et il faut féliciter les techniciens qui ont fait le travail, parce que nous, nous avons prévu d'inaugurer cette réalisation-là le 25. Et vous voyez aujourd'hui, donc il y a 4 jours que nous avons gagné par rapport au délai qui a été fixé.
Autre aspect de ce journal, les inondations continuent de faire des dégâts dans le pays avec les fortes précipitations enregistrées cette semaine. Depuis le début de la saison pluvieuse en juin à la date du 19 août, plus de 78 000 personnes ont été touchées par ces inondations, occasionnant 40 morts et 55 blessés. Ces informations ont été publiées par la Direction générale de la protection civile dans un bulletin publié ce week-end. Également, la note de la protection civile fait cas d'importants dégâts avec la perte d'environ 150 greniers ainsi que 600 têtes de bétail emportées. Selon la même source, les régions de Zender, Diffa, Tillabéri et Mara sont les plus impactés par les inondations. Inondations encore, 4 villages de la commune rurale de Denchandou, région de Tillabéri, ont été inondés dans la nuit du 15 au 16 août dernier, faisant près de 3000 sinistrés. Des vivres ont été distribués à ces personnes, explique Bachir Moussa Haruna, maire de Denchandou, joint au téléphone par Studio Kalangou.
Les personnes sinistrées s'élèvent à 2819 personnes, donc 412 maisons, 14 magasins. En tout cas, pour les champs, nous n'avons pas encore la situation exacte des 5 inondés dans la commune rurale de Denchandou. Le jeudi 18, nous allons réussir la délégation qui est composée de députés de la région de Tillabéri qui sont venus constater le dégât et apporter un soutien de 2 millions de francs CFA aux sinistrés des 4 villages. Et hier aussi, nous allons arrêter une remise de dons de la coordination départementale du PNDS. Ils ont amené 5 tonnes de riz pour les sinistrés. On a encore reçu un don de la part d'une famille de Denchandou. Ils ont apporté aussi 400 000 francs pour les sinistrés. Donc on a partagé l'argent entre les ménages qui sont victimes de l'inondation. Et le riz aussi, c'était comme ça. Chaque village a été 50 sacs de 25 kilos.
Sur un tout autre plan, la grève que prévoyaient les syndicats du secteur des transports aujourd'hui 22 août a été levée. Pour cause, le gouvernement a entrepris des négociations vendredi qui ont abouti à la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. Adoum Al-Fari Ibrahim, représentant de la coalition des syndicats des transporteurs, est au micro de Moussa Boukari Kanda.
Donc nous étions rentrés avec 17 points et nous sommes ressortis avec 16 points sur lesquels on a signé un protocole d'accord et d'ailleurs qui sera suivi aussitôt parce qu'il y aura un comité qui sera mis en place aujourd'hui et qui vont suivre étape par étape le respect de ces protocoles d'accord. Nous avons demandé au niveau de la ville de Niamey qu'il y ait un cadre légal au sein du transport. On construit un lieu où les taximans, quand ils viennent pour se faire signer leur titre de transport, qu'il y ait une salle d'attente pour eux, qu'il y ait aussi un parking où ils vont garer leur véhicule. Ça, c'est au niveau de la mairie. Au niveau du ministère des Transports, nous avons conclu sur un premier point qui est le gasoil. Le comité doit se réunir, essayer de voir l'impact causé au niveau des gros porteurs. Et le ministère et le gouvernement vont essayer d'atténuer ces manquements-là. Et on va les suivre pas à pas pour qu'ils puissent respecter ce protocole d'accord.
À Dogendouchi, depuis plusieurs mois, il est exigé aux conducteurs de taxi-moto, communément appelés Kabkabou, le port d'un gilet bleu. C'est une décision de leur syndicat pour les différencier des autres motocyclistes. Mais à ce jour, ce port de gilet n'est toujours pas effectif, selon Zabairou Maman, le président du syndicat Kabkabou, qui demande la collaboration des autorités pour le respect de la décision. Il est au micro de Abdelaziz Dayouma.
Les autorités nous ont demandé de nous distinguer de ceux qui ne font pas le travail de taxi-moto. Par exemple, à Niamey ou à Dosso, tout taxi a un numéro de portière avec tête rouge. C'est obligé. Personne ne peut acheter un véhicule et le transformer directement en taxi. Il faut des signes. C'est ce qu'on nous demande de faire au niveau des taxi-moto. La mairie nous autorise à le faire. Ce n'est pas compliqué. C'est la condition qui te permet d'exercer ton métier sans obstacle. On attribue un numéro à la moto et le conducteur porte un gilet. Nous avons fait ces gilets, mais certains ont renoncé à les porter par manque de suivi de la part de l'autorité. Il faut que l'autorité veille à cela. Si par exemple la mairie s'y met, le taxi-moto de Douchi va se comporter comme celui de Dosso. Même si la patrouille le croise, il a son gilet qui le distingue des autres. Il n'y aura aucun problème.
Nous allons à Agadez où le banditisme gagne du terrain dans la commune de Timia, a relevé le maire. Selon lui, le manque de postes de force de sécurité sur place expliquerait cette situation, ce qui pousse certaines communautés à prendre des dispositions pour se sécuriser, explique Mohamed Aliman, le maire de la dite localité. Il est au micro de Moussa Maman.
L'une des difficultés de la commune rurale de Timia, c'est le manque d'une force de police dans la commune. Timia, c'est l'une des seules communes, Jean d'Agadez, où il n'y a pas une force de sécurité stable. C'est-à-dire qu'on n'a ni un commissariat de police, ni des postes de gendarmerie, ni d'un peloton de finisseurs. Je plaide encore pour que l'État, en tout cas, nous dote d'une force de sécurité stable. Voyez-vous, les actes de banditisme se développent surtout dans la partie est et la partie ouest de la commune rurale de Timia. La partie est, la bordure du désert, et la partie ouest de la commune. Ces bandits-là ont pratiquement pillé tous les biens communautaires, les boutiques, les BC, les braquages sur les routes. Et là, on est amené jusqu'à ce que les communautés commencent à s'organiser pour effectivement assurer leur défense. Vous voyez, le manque de postes stables de sécurité est vraiment une problématique majeure pour nous aujourd'hui, parce que ça va amener les populations à se défendre elles-mêmes, et là, ce sera d'autres travers encore.
6 personnes de nationalité étrangère ont été arrêtées samedi à Tara, près de Gaya. Selon le directeur départemental de l'environnement, ces derniers utilisent des produits toxiques dans le fleuve pour empoisonner des grenouilles menacées de disparition. Les détails avec commandant Boulouedou Amadou, directeur départemental de l'environnement de Gaya. Il est au micro de Fadel Alou.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui est relatif à la saisie par la brigade mobile de la direction départementale de Gaya d'espèces de grenouilles abattues par 6 individus. Ces 6 jeunes en provenance d'un pays voisin ont été appréhendés en pleine opération de carnage de ces spécimens au bord du fleuve. Leur mode opératoire consiste à l'épandage dans ces plans d'eau d'un produit chimique très toxique communément appelé pia pia pour empoisonner les grenouilles. Ce produit chimique est dangereux pour tout élément écosystémique, aquatique et même terrestre. Donc après l'empoisonnement, les spécimens de grenouilles tillées sont séchés et conditionnés dans des cartons pour l'acheminement dans un pays voisin où le carton est vendu entre 40 000 à 60 000 francs CFA. Nous ne daignerons pas d'appliquer à ces jeunes délinquants en matière de criminalité faunique tous les textes en vigueur portant répression des infractions des espèces de faune et de flore menacées d'extinction.
Parlons éducation dans cette édition. Pour le bon cursus de son enfant, Tima Souley, mère d'une élève en classe de CM1, explique le soutien qu'elle apporte à sa fille pendant l'année scolaire. Elle témoigne de l'attention particulière qu'elle porte aux études de sa fille. Tima Souley est au micro de Mohamed Mama.
Chaque jour depuis la classe de CI, je suis capable de lui faire réviser ce que les professeurs lui ont enseigné. Et elle n'a jamais redoublé une classe jusqu'à maintenant où elle est en classe de CM1. À cet effet, j'aimerais lui apporter tout mon soutien. C'est pourquoi je ne lui donne aucune corvée. Si elle revient de l'école, je lui fais réviser ses cours. Par exemple, les cours de géographie, sciences et exercices, j'arrive à le lui expliquer. Bien que maintenant c'est les vacances, je lui enseigne quand même des cours qui lui seront utiles pour la rentrée prochaine.
Du sport pour la suite de ce journal, dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations de football, l'équipe nationale du Niger, le MENA, a perdu face aux étalons du Burkina Faso ces deux matchs amicaux en aller et en retour. Chacune des rencontres s'est soldée par un score 1-0. Autre défaite du Niger en football, cette fois-ci en dames. L'AS Police perd également sa première journée de match face à l'Africana Sport de la Côte d'Ivoire samedi sur un score 5-0 en match d'ouverture de la Ligue des champions féminines à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Cette rencontre sportive se tient du 20 août au 3 septembre 2022 en Côte d'Ivoire. Et puis la partie magazine de cette édition. En droit, il y a toujours une institution qui contrôle et juge les concernés à la base des règles définies par cette dernière. Le droit international humanitaire, lui, ne prévoit pas ce mécanisme. Toutefois, les parties pourront faire recours à la Cour pénale internationale CPI ou au niveau des tribunaux comme le Conseil de sécurité de l'ONU pour des cas particuliers. C'est ce qu'explique Elem Kairoulin, conseiller juridique au comité international de la Croix-Rouge de Niamey. Il est au micro d'Alita Jissir.
Le droit international humanitaire prévoit-il une cour de justice qui assure le contrôle et le jugement?
Contrairement aux droits de l'homme, le droit international humanitaire ne prévoit pas de mécanisme de contrôle du respect pour ce droit-là. Il y a une seule exception, c'est la commission d'établissement de faits qui est prévue par le protocole additionnel 1, mais cette commission, elle n'est pas vraiment fonctionnelle, malheureusement pour l'instant en tout cas. De toute façon, on ne peut pas parler, ce n'est pas une cour, donc elle ne peut pas rendre de jugement. C'est juste une commission d'experts qui rend des avis, et encore une fois, quand les États concernés sont d'accord. Quant à des jugements, on peut imaginer alors l'application du DIH, elle peut être contrôlée sur le niveau national, par exemple par les cours nationales. Elles peuvent tout à fait, et elles doivent même juger des violations de droit international et humanitaire. C'est une obligation de l'État de poursuivre les responsables de crimes de guerre. Alors, la responsabilité première, elle revient de toute façon aux États. Ensuite, au niveau supranational, il existe aussi différentes possibilités. Il existe la Cour pénale internationale qui a son siège à La Haye. Le Niger a ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale, donc ce qui se passe sur le territoire nigérien peut être soumis à la Cour, ou la Cour peut s'en saisir et décider d'enquêter sur ce qui se passe au Niger. Mais typiquement, elle ne va pas commencer une enquête si le Niger est capable et veut faire une enquête lui-même. Donc il y a ce principe qu'on appelle de subsidiarité de la Cour, c'est-à-dire si l'État est en mesure de poursuivre des crimes de guerre, la Cour pénale internationale ne va pas intervenir.
À part la Cour pénale internationale, y a-t-il d'autres mécanismes pour régler les différends liés au droit humanitaire international?
Bon, ce n'est pas la seule Cour qui peut juger des violations du DIH. On connaît aussi des tribunaux ad hoc, on les appelle, comme par exemple le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Ce sont des tribunaux qui ont été mis en place par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui ont de ce fait un pouvoir de rendre des décisions contraignantes vis-à-vis des responsables.
C'est ici que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À 18h15, vous aurez le forum sur la gestion des inondations à Zender. C'est avec Mustapha Mamansani. Dans un instant, le journal en tamashek avec Tarnan Foudé Ahmed. Très bon.
Bonjour Fanta, tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL?
Mais c'est génial, partout au Niger et uniquement si j'ai une puce RTL?
Exactement, il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter, mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène.
Super, c'est vraiment intéressant.
Et ce n'est pas tout, tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 325.
Suivez les actualités, c'est sur le 325 avec RTL Niger.